Article du Kiné Actualité du jeudi 22 septembre 2011. Quantifier l'équilibre en kinésithérapie par Jérôme Grapinet, kinésithérapeute, ostéopathe libéral, rééducateur vestibulaire depuis 1989, ancien attaché au laboratoire d'ORL du CHU de Besançon, chargé de cours à l'IFMK de Besançon et de Dijon. Effectue des travaux de recherche sur des systèmes biomédicaux et de réalité virtuelle sensorielle et motrice. Responsable de projet à l'Institut supérieur d'ingénieurs biomédicaux, ISIFC. Analyser l'équilibre de l'homme debout n'est plus l'apanage de quelques spécialistes. C'est maintenant possible de façon efficace en kinésithérapie par une méthode d'évaluation séquentielle de l'équilibre en trois analyses. Celle-ci est simple à mettre en œuvre et à interpréter avec un matériel beaucoup plus abordable qu'auparavant. Le vieillissement de la population est en marche. Le kinésithérapeute va être quotidiennement confronté à des patients presbyastasiques, ce qui veut dire les conséquences du vieillissement physiologique sans signes neurologiques, patients ayant pour conséquence une difficulté à tenir debout, ou neurologique, ayant comme doléance majeure une déficience d'équilibre debout, avec la crainte de chuter et ses conséquences fonctionnelles ou psychologiques. Les techniques d'évaluation de l'équilibre ne sont pas nouvelles. De Vierord, V-I-E-R-O-R-D-T, en 1860, à Nassner, N-A-S-H-N-E-R, de nombreux médecins, chercheurs, kinésithérapeutes ont étudié la question avec des abords et des objectifs parfois différents. L'équitest, avec ses jauges à 100 Hz, reste la référence en rééducation vestibulaire et en expertise médicale, du fait de sa fiabilité à faire le tri dans l'utilisation des entrées sensorielles de l'équilibration, ainsi que sa capacité à détecter une stratégie d'équilibre anormale, dite de hanche. Depuis une dizaine d'années, sont apparues des plateformes motorisées translationnelles qui reproduisent une situation de chute en glissement. Leur intérêt est d'évaluer la rapidité des réactions parachutes chez les personnes âgées. Dans un autre domaine très spécifique, la posturologie utilise des plateformes de stabilométrie statique à trois capteurs de force afin d'observer en position fixe, dite de Romberg, les micro-mouvements de l'équilibration 40 fois par seconde. Mais laissons à nos amis posturologues l'évaluation de la posture initiée par le docteur Gaget et ses collègues il y a plus de 30 ans. Notre propos est différent. Comment, avec un matériel beaucoup moins coûteux, permettre à tous les kinésithérapeutes ou rééducateurs, même non spécialistes, de quantifier utilement et avec pertinence les performances de l'équilibre? Comment prévoir et orienter la rééducation? Comment objectiver les progrès imputables à la rééducation? Ceci dans un langage kinésithérapique clair, compréhensible par les médecins prescripteurs et les services médicaux des caisses, à l'heure de l'inévitable évaluation de nos rééducations. C'est à ce défi que nous avons travaillé depuis de nombreuses années afin de valider l'utilité d'une méthode sur un grand nombre de sujets. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser une plaque à 1600 capteurs de pression. Celle que nous utilisons est de type BioRescue. Ces plateformes appelées baropodomètres étaient initialement conçues pour les podologues. Certes, elles offrent une précision moindre d'environ 10% que les plateformes de force à 3 capteurs. Mais ceci est sans importance puisque, n'étant pas posturologue, nous n'analysons pas ce qui se passe 40 fois par seconde. En revanche, ces grandes plateformes de 60 par 60 cm présentent d'énormes avantages en pratique courante pour le kinésithérapeute clinicien qui observera la forme des tracés obtenus par le déplacement du centre de pression des pieds. Enfin, elles sont extra fines, de seulement 4 mm d'épaisseur, ce qui permet de poser un accessoire par-dessus pour donner de la mobilité. Ou inversement, de poser ces plaques à capteur sur un appareil créant une mobilité contrôlable. Trois analyses sont à réaliser dans l'ordre suivant. Premièrement, l'observation du positionnement des pieds en position naturelle ou de confort. Cette première analyse ne demande qu'une dizaine de secondes. Debout sur la plaque, le patient se place dans la position qui lui convient le mieux, en évitant la position bien symétrique des pieds à 30 degrés dit de Romberg. On peut lui demander de piétiner sur place pour être certain d'obtenir la position écologique. À chaque personne correspond une position naturelle, assez reproductible et rarement symétrique, tant pour les placements que pour la répartition des pressions plantaires. Ce positionnement propre à chaque individu est toujours parlant pour le clinicien. Il peut être modifié par des événements pathologiques. L'homme debout n'est jamais statique. Nous allons donc observer pendant quelques secondes le comportement plantaire en visualisant les changements d'appui qui sont vivants. Très souvent, on observe un passage en appui bord externe, bord interne d'un pied, ou des changements d'appui plantaire rythmique avant-arrière, plus ou moins importants, fréquemment accélérés et accentués dans les maladies neurologiques ou chez la personne âgée. Pour finir, l'opérateur cliquera pour enregistrer l'image de l'empreinte plantaire avec la visualisation du centre moyen de pression total, le centre de pression individuel de chaque pied, ainsi que la ligne passant par ces trois points. La position anormalement postériorisée de cette ligne vers les talons se trouve fréquemment en cas d'équilibre précaire. De plus, avec l'âge, les déformations structurelles du pied sont un facteur de déstabilisation par modification des ancrages au sol. Toutes ces observations collectées en quelques secondes apportent quantité d'informations tant orthopédiques que neurologiques. Deuxièmement, l'analyse exaséquentielle. Cette analyse de l'équilibre qui utilise la fonction essentielle de double tâche se fait en six séquences. Les trois premières sur plateforme stable, les trois suivantes sur plateforme instable. Pour obtenir une bonne analyse en conditions dynamiques instables, il est nécessaire d'avoir une mobilité assez douce, c'est-à-dire faible en amplitude et en vitesse, autorisant un contrôle permanent du patient. Des conditions chaotiques ne permettent pas une analyse suffisamment reproductive de l'équilibre. En pratique, nous poserons simplement sur notre plaque à capteur un coussin en mousse très dur, légèrement convexe au-dessous, et surmonté d'une plaque rigide qui sera en contact avec la plante des pieds. Celui-ci est positionné pour laisser libre le mouvement antéro-postérieur de flexion-extension de cheville. Rappelons deux notions fondamentales. D'abord, s'il y a lieu de choisir une déstabilisation antéro-postérieure est préférable car elle est moins facilement détectée par le cerveau qu'une déstabilisation latérale facilement détectée plus haut, au niveau des hanches. Ensuite, tant pour l'analyse que pour la rééducation, il faut toujours éviter les surfaces molles telles que de la mousse en contact direct avec les pieds. Si le praticien est plus spécialisé, il pourra aussi utiliser un système plus évolué qui peut être bloqué, débloqué et contrôler un amortissement. Dans ce cas, c'est la plaque à capteur qui est posée en permanence sur l'appareil. En pratique, chacune des six séquences d'enregistrement dure 30 secondes. Le patient est comme précédemment debout en position naturelle de confort. La première séquence consiste à enregistrer l'équilibre des yeux ouverts. La deuxième se fait les yeux fermés. La troisième se fait en utilisant une nouvelle notion très importante en rééducation qui est la double tâche. Ici, il s'agit de garder son équilibre debout, les yeux fermés, tout en comptant très lentement de 30 vers 0 à voix haute. Pas plus rapidement qu'un chiffre toutes les 2 secondes. Ceci est réalisable par quasiment tous nos patients. Pourquoi cette lenteur de comptage? Pour ne pas lancer un automatisme de comptage, mais passer par la mémoire de travail. Il s'agit alors d'une vraie double tâche d'équilibration et de cognition, réflexion. Les trois dernières séquences sont les mêmes, avec une plateforme rendue légèrement instable. La quatrième se fait en condition instable avec les yeux ouverts, la cinquième se fait instable avec les yeux fermés, la sixième et dernière se fait instable en double tâche, les yeux fermés, avec comptage lent à rebours. Quelles informations peut-on recueillir en observant le tracé dans ces six séquences successives? Tout d'abord, par l'observation de la forme du tracé de sa course dans chaque séquence. Celui-ci est-il bien centré comme sur un confetti? S'il est étalé, comment l'est-il? Puis, par comparaison entre les six tracés, la fermeture des yeux ou le fait de réfléchir pour compter à l'envers augmente-t-il l'instabilité? A-t-on au contraire un meilleur équilibre en comptant? Chez certains simulateurs, la tâche cognitive rend plus difficile la création d'un faux tracé par exagération des oscillations. D'une manière générale, il existe des tracés caractéristiques de famille, de comportement moteur, d'équilibration. Les grandes oscillations posturales se rencontrent volontiers dans certaines maladies neurologiques telles que les ataxies. Un tracé restant sur des directions antéro-postérieures avec ce que nous appelons une petite écriture se retrouve souvent dans les atrophies cérébelleuses et chez la personne âgée. Une autre observation s'avère très utile pour prévoir les capacités de récupération d'un patient, le découpage des séquences dans le temps. Dans chaque séquence de 30 secondes, on compare les tracés de 0 à 10 secondes, puis de 10 à 20 secondes et de 20 à 30 secondes. Si le déséquilibre augmente systématiquement, c'est un signe de faible possibilité de récupération. Ceci est dû à une instabilité tant physique qu'attentionnelle ou des performances motrices déjà à leur maximum. Si au contraire, chaque séquence va vers une amélioration du contrôle moteur, il s'agit d'un signe de potentiel rééducatif important. Troisièmement, les limites de stabilité. LDS. La dernière analyse recommandée est la plus active des trois. On parle de limites de stabilité active, les LDS ne sont pas toujours réalisables. Il arrive parfois que la personne testée ait des difficultés à visualiser ce qui lui est demandé, Alzheimer, etc. Ou le contrôle moteur debout soit quasi inexistant. Protocole. En position de confort des pieds, le patient voit apparaître successivement et aléatoirement 8 flèches sur l'écran qui est devant lui. À chaque fois qu'une flèche apparaît, en pressant sur ses pieds, il doit faire monter le long de celle-ci un petit curseur qui n'est autre que son centre de pression. Il doit donc aller le plus loin possible dans des directions imposées et surtout, élément important, se tenir le plus longtemps possible en position maximale pendant les 10 secondes d'apparition de chaque flèche. Car le résultat, donné sous forme d'une enveloppe octogonale, tiendra compte de la capacité à tenir la position demandée. En superposant les graphiques successifs, on visualisera immédiatement les progrès réalisés proportionnellement à l'augmentation de surface des octogones. Conclusion : l'association de ces trois analyses permet une quantification de l'équilibre adapté à bien des domaines de la kinésithérapie, de l'orthopédie à la neurologie, en passant par la psychomotricité et la gériatrie. L'important est d'avoir un matériel pratique et une méthode reproductive pour comparer un patient par rapport à lui-même dans le temps, afin d'évaluer ses progrès au cours de la rééducation. L'utilisation de la double tâche associant cognition et équilibration est une notion récemment admise en kinésithérapie que nous recommandons fortement depuis plusieurs années du fait de son immense intérêt en neurologie et en gériatrie. Avec l'évolution des technologies, nous utilisons déjà des microcapteurs inertiels de type Bioval qui, collés à certains endroits stratégiques du corps, permettent de comparer les variations des appuis plantaires au déplacement du bassin et de la tête. Il est donc maintenant possible de mettre en évidence une stratégie de hanche significative d'une dégradation importante de l'équilibre. Rappelons aussi qu'aucune méthode de posturographie n'a jamais permis d'établir un diagnostic médical, à savoir prétendre à l'identification d'une maladie. En revanche, l'imagerie plantaire et les graphiques obtenus correspondent à des mesures fonctionnelles fiables qui permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique. À l'heure où les référentiels kinésithérapiques se mettent en place, ces outils d'évaluation des déficiences dans le domaine de l'équilibre, adaptés à la pratique kinésithérapique moderne, sont une aide précieuse pour justifier la poursuite de nos traitements.